VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibour avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Laurent Gbagbo, définitivement acquitté par la CPI. Il était poursuivi depuis 10 ans pour crimes contre l'humanité. Au Niger, le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État après des tirs dans la capitale la nuit dernière. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. Procès du bombardement du camp militaire de Bouaké en Côte d'Ivoire. Nous entendrons des témoignages sur cet incident qui a eu lieu en 2004. Le président américain Joe Biden propose 2 000 milliards pour transformer les infrastructures et l'économie. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. C'est la fin d'un long procès. Laurent Gbagbo est acquitté. Décision ce soir de la Cour pénale internationale qui a confirmé le jugement prononcé en 2019. Définitivement reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, l'ex-président ivoirien est désormais libre de rentrer dans son pays après une décennie d'absence. Mohamedou Oumfa.
Les juges ont rejeté l'appel de la procureure de la CPI contre la décision de la chambre de première instance qui avait acquitté M. Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. La CPI abroge par la présente toutes les conditions restantes à la libération de M. Gbagbo et M. Blé Goudé, a déclaré le juge, ordonnant aux fonctionnaires du tribunal de prendre les dispositions pour le transfert en toute sécurité de M. Gbagbo et M. Blé Goudé vers le ou les états d'accueil. M. Gbagbo a hoché la tête à l'annonce de la décision, puis a levé deux pouces en l'air et a souri. À la fin de l'audience, il s'est levé et a applaudi, tandis que M. Blé Goudé a légèrement secoué ses poings en signe de victoire. En confirmant l'acquittement, la chambre d'appel de la CPI écarte la tenue d'un nouveau procès et clôt l'affaire près de 10 ans après l'ouverture du dossier sur les crimes ayant fait 3000 morts en Côte d'Ivoire lors des violences post-électorales en 2010 et 2011. Depuis son acquittement, M. Gbagbo vit en Belgique, en possession de deux passeports, un ordinaire et un diplomatique remis par les autorités ivoiriennes. L'ex-président avait annoncé en décembre son désir de rentrer en Côte d'Ivoire.
Au Niger, une tentative de coup d'État militaire a été déjouée dans la nuit, a affirmé ce mercredi le gouvernement, 2 jours avant la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum, qui prend la tête d'un pays frappé par les attaques djihadistes et à l'histoire marquée par des putschs. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
C'est en début d'après-midi de ce mercredi que le ministre porte-parole du gouvernement a lu un communiqué qui annonce qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans la nuit du mardi à mercredi. Abdraman Zakaria.
Plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé, comme l'attestent les dernières élections démocratiques, libres et transparentes, salué par l'ensemble de la communauté nationale et internationale.
Pas d'informations sur l'identité des personnes interpellées, encore moins sur celles qui sont recherchées. Cette tentative de coup d'État intervient à 2 jours de l'investiture du président élu Mohamed Bazoum, alors que son challenger Mahamat Ousmane continue de contester les résultats et de réclamer sa victoire. Une manifestation de ses partisans prévue ce jour a été interdite par les autorités de la ville de Niamey. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Amadou Vamulke, un ancien patron de l'audiovisuel public au Cameroun, écroué depuis 5 ans pour détournement de fonds publics, s'inquiète pour sa vie. L'ancien directeur de la CRTV dit redouter une contamination au coronavirus. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans sa lettre ouverte au ministre de la Justice, Laurent Esso, signée mardi depuis la prison de Kondengui dans la capitale Yaoundé, l'ancien directeur général de la CRTV rapporte que 3 de ses co-détenus ont contracté le COVID-19 ces derniers jours. Dans son courrier, M. Vamulke accuse le ministre de la Justice d'autoritarisme et dénonce une parodie de justice. Mais cela m'importe peu, puisque sans avoir jamais rien détourné, j'ai déjà passé 5 708 jours d'incarcération illégale, a-t-il conclu. L'ONG Reporters sans frontières exhorte le gouvernement à libérer Mucheva Mulke avant qu'il ne soit trop tard, affirmant que le journaliste de 71 ans souffre de plusieurs pathologies, dont une neuropathie sévère justifiant son évacuation sanitaire. Amadou Vamulke avait été nommé à la tête de la CRTV en 2005 avant d'être arrêté en juillet 2016 alors qu'il occupait encore ce poste. Poursuivi pour détournement de fonds publics devant le tribunal criminel spécial, une juridiction dédiée à la répression de la grande corruption, son procès a déjà fait l'objet de 64 renvois, un record mondial selon lui. Une nouvelle audience est prévue le 17 avril.
Conflit en Centrafrique, un groupe d'experts des Nations Unies s'est inquiété ce mercredi d'informations faisant état de graves violations des droits humains par des paramilitaires russes combattant contre la rébellion aux côtés des forces armées centrafricaines. En République démocratique du Congo, 25 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi par des membres présumés du groupe armé des forces démocratiques alliées dans la région de Beni, dans l'Est, annonce Karline Zanzou Kassivita, gouverneur de la province. L'armée est intervenue et a tué deux assaillants. En Éthiopie, un groupe rebelle actif dans la région de l'Oromia a mené une attaque terroriste contre des civils cette semaine, affirme le gouvernement local, sans toutefois donner de bilan. Un témoin évoque des dizaines de morts. En Libye, 120 prisonniers appartenant au camp du maréchal Khalifa Haftar et ayant participé à l'offensive contre la capitale Tripoli ont été relâchés aujourd'hui. Ces détenus ont été libérés à l'issue d'une cérémonie marquée par des discours prononcés par des officiels sur le thème de la réconciliation. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande d'établir une composante d'observateurs de l'arrêt des hostilités au sein de la mission de la paix Manul en Libye, parallèlement au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dirigé et contrôlé par les Libyens dans un rapport publié mercredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
2000 milliards de dollars, c'est le montant que le président américain Joe Biden propose d'investir dans les infrastructures. La Maison-Blanche vise à créer des millions d'emplois et de relever le défi de la compétitivité face à la Chine. Rosine Munevero.
La première phase de son programme Build Back Better, reconstruire mieux, détaille ses investissements étalés sur 8 ans. Elle prévoit en particulier d'injecter 620 milliards de dollars dans les transports, permettant de moderniser plus de 32 000 km de routes et autoroutes et de réparer quelques 10 000 ponts à travers les États-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche vise aussi à rendre les nouvelles infrastructures plus résistantes aux évolutions liées au changement climatique. Ces investissements gigantesques seraient en particulier financés par une hausse de l'impôt sur les sociétés qui passerait de 21% à 28%. Cette nouvelle offensive législative intervient peu après l'adoption par le Congrès d'un plan de relance centré sur la pandémie de COVID-19, lui aussi chiffré à près de 2 000 milliards de dollars. Mais le discours de Pittsburgh ne sera que le point de départ d'une âpre bataille au Congrès dont l'issue est incertaine. Les tractations s'annoncent redoutables.
Réunion internationale sur le climat, les hauts responsables de l'énergie dans le monde ont fait le constat ce mercredi de l'urgence de faire plus et plus vite pour le climat, alors que les émissions du secteur repartent déjà à la hausse après le choc de la pandémie. John Kerry a promis que Washington, revenu dans l'accord climat de Paris avec l'élection de Joe Biden, dévoilerait d'ici le 22 avril de nouveaux engagements climatiques ambitieux. Pas juste de belles paroles, selon ces mots. Le Covid-19 a été la troisième cause de décès aux États-Unis en 2020, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer, selon des chiffres provisoires communiqués par les autorités sanitaires américaines. Et toujours concernant le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas utiliser l'antiparasitaire ivermectine pour les patients atteints du Covid-19, à l'exception d'essais cliniques.
conflit syrien, les ministres des Affaires étrangères de 18 pays européens promettent une lutte sans merci contre l'impunité du groupe État islamique et du régime syrien, accusés d'attaques à l'arme chimique, d'enlèvements et autres disparitions. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Niger, la compagnie minière d'Akouta, la Cominac, filiale du français Orano, arrête l'exploitation de ses gisements d'uranium dans la province d'Agadez ce mercredi 31 mars après 40 ans de service. C'est l'une des plus grandes mines souterraines d'uranium au monde qui ferme ses portes. La Cominac aura produit environ 80 000 tonnes d'uranium jusqu'en 2021, soit plus d'un tiers de la production moyenne du Niger, estimée à 3 000 tonnes par an. L'uranium est la principale richesse minière du pays, avec 60% des recettes d'exportation en 2010. Au Burkina Faso, les prix des hydrocarbures sont en hausse depuis plus d'une semaine. Le litre de carburant coûte 10 francs CFA de plus. La bouteille de gaz butane de 12 kg vaut 500 francs CFA de plus, passant de 5 000 à 5 500 francs CFA au moins. Cette augmentation résulte de l'annonce faite par le ministère du Commerce le 19 mars. Pour la Ligue des consommateurs, elle n'est pas la bienvenue au regard de la cherté de la vie. Le gouvernement, lui, accuse les prix du marché international d'être à la base de cette situation. Pour terminer, la République démocratique du Congo et le Qatar ont signé de nombreux accords et protocoles d'entente relatifs à la coopération économique, commerciale et technique, ainsi qu'à la coopération aéronautique et maritime. Ces accords portent entre autres sur les investissements massifs, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires et portuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts congolais. La valeur des investissements attendus n'a pas été révélée.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Cannes 2021, le tableau est presque complet. 23 des 24 qualifiés sont désormais connus à l'issue de la sixième et dernière journée. Faisons un tour des pays qualifiés avec Élisée Mpatine. Depuis Boyukon au Bénin.
La Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de Cannes de suite après avoir validé sa qualification sur la pelouse de la Centrafrique. Qualification également de l'Éthiopie, bien que battue 3-1 par la Côte d'Ivoire. Et puis, la Guinée-Bissau a décroché la troisième cape d'affilée de son histoire. Enfin, absent des deux dernières éditions, le Cap Vert va effectuer son grand retour à l'occasion de la Cannes 2022. De nouveau seront à leur toute première participation les Comores et la Gambie. Le Burkina Faso et le Gabon retrouvent la CAN après avoir manqué l'édition précédente. La Guinée équatoriale va participer à sa troisième CAN, mais c'est bien la première fois que le Nzalang se qualifie sur le terrain des éliminatoires. Pour le reste, ce sont des habitués de la grande messe du foot africain, notamment l'Algérie, championne en titre, le Sénégal, finaliste de la dernière édition, ou encore le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali. Pour rappel, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Cameroun en janvier 2022. Boycon, Élisée Mpati, VOA Afrique.
Le match Sierra Leone-Bénin, tous deux à la lutte pour la qualification qui devait désigner hier le 24e qualifié, a été reporté par la CAF au mois de juin lors de la prochaine trêve internationale hier. 6 cas positifs au Covid-19 dans l'équipe béninoise ont été détectés au dernier moment. Balle au panier, la Basketball Africa League lancée par la NBA et la FIBA aura lieu du 16 au 30 mai prochain à Kigali au Rwanda. Cette compétition est une initiative commune de la Fédération internationale et de la Ligue nord-américaine et vise à promouvoir le basketball africain, une opportunité de faire grandir le sport et le business, d'après son président Amadou Gallo Fall.
D'abord, on essaie de créer un intérêt, de mettre ce sport en lumière et de créer une base de supporters. Et bien sûr, en ajoutant 1,2 milliard d'Africains à l'incroyable talent athlétique qui existe ici, nous voyons une opportunité incroyable de développer notre sport d'abord et ensuite notre business.
Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League. 12 équipes de 12 pays différents s'affronteront. JSPI d'Algérie, Petro-Luanda de l'Angola, FAP du Cameroun, Zamalek d'Égypte, la JN de Madagascar, la police du Mali, Salé du Maroc, Ferroviaro Maputo du Mozambique, Rivers Hoopers du Nigeria, Patriot du Rwanda, les douanes du Sénégal et Monastir de la Tunisie.
Merci Yakuba. À l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg toujours avec vous, place au dossier du jour. Nous ouvrons cette partie magazine avec la Côte d'Ivoire. Le 6 novembre 2004, la position des soldats français a été bombardée dans la ville de Boaké. 9 militaires français et un civil américain ont été tués et 38 soldats français ont été blessés. Plus de 16 ans après les faits et alors que le procès de ce bombardement a démarré lundi à Paris, des témoins à Boaké se remémorent ces instants au micro de notre correspondante Aïcha Diarra.
Ce sont des mauvais souvenirs, très graves. Parce que 9 officiers morts sur coup à l'école française, oh non, c'était pas la peine, hein. Il y avait trop de morts. Parce que nous qui sommes à Sokora ici, nous on ne voyait pas. Ceux qui sont loin de nous, dans les quartiers Djamourou, vers les Gombreville, ce sont eux qui ont bien vu. Parce qu'eux, ils croient que c'était tout près de sujet. C'était désagréable à voir. 3 avions successivement ont attaqué la ville.
On était au quartier, on a entendu un grand bruit, des hélicos sont venus d'Abidjan, de Yamoussoukro, pour transporter les blessés et les morts.
Bon, ce jour-là, c'était un sentiment de désespoir, parce que nous, on était en zone rebelle, parce que les bombardements, quand on a écouté à la radio, ils ont dit que les bombardements ne faisaient que commencer. Donc nous, on avait une grande inquiétude, parce qu'on ne savait pas comment l'ampleur que ça allait prendre, et quand ça allait finir. Donc vous imaginez notre détresse, notre angoisse, et notre désespoir.
Tout ce qui est être vivant avait peur ce jour-là, parce qu'on n'avait jamais vu ce genre de choses. C'était tellement étrange que même celui qui se disait fort avait peur.
Nous tous, on voulait tuer ici. Ils sont partis sur le lycée français.
C'est vrai qu'on n'a pas pu voir le corps, parce que effectivement, quand c'est fait, les Français sont venus, ils ont tout ramassé, il y a d'autres mêmes qui sont montés tous à Abidjan. Alors moi, j'éprouvais un sentiment de pitié comme leur pour eux. Je ne suis pas d'accord quand on accuse, comment dire, les Ivoiriens, non. Parce qu'eux ne peuvent pas venir en même temps, comment dire, avec la vie, alors que ce sont eux-mêmes qui sont attaqués, c'était eux-mêmes qui étaient visés. Alors donc, je ne peux pas accepter qu'on accuse, comment dirais-je, les gens qui étaient à Boaké ici.
Bon, ce procès, nous, on veut que la vérité éclate. Parce qu'on a beaucoup parlé, on voudrait que la vérité éclate et que les vrais commanditaires, les responsables, les exécutants, que tout le monde soit condamné équitablement et puni.
Sincèrement, c'était pas joli à voir. Il y avait des morts partout. Il y avait Sukhoi, il y avait un avion qu'on appelle Sukhoi. Sukhoi était venu à Boaké ici, lancer des obus partout. Il y avait des morts partout même. Moi-même, j'ai un cousin même qui a été victime. Donc, mon souhait le plus ardent actuellement, que la justice soit faite. Rien que la justice. Si la justice est faite, les victimes maintenant vont dormir tranquillement. Par exemple, moi, mon cousin qui a été victime, donc on peut dire maintenant la justice a été faite, qu'on puisse dormir dans la paix.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
La conclusion d'une enquête de l'ONU publiée hier mardi soutient qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française en janvier a tué 19 civils réunis pour célébrer un mariage. Paris a vivement réagi à ces graves accusations. Le ministère français des armées a réfuté toute bavure et soutient que ses troupes ont bien ciblé ce 19 janvier un groupe armé terroriste identifié comme tel près de Bounti dans le centre du pays. Pour une analyse, Bagassikoura a joint Yahya Tindina. Il est journaliste à la radio-télévision d'État à Tombouctou dans le nord du Mali.
Ça ne nous a pas surpris parce que d'abord que ce soit l'armée malienne, l'armée française, généralement dans leurs opérations communiquent moins. Et surtout quand il y a des opérations comme ça, il n'y a pas de preuves pour nous montrer que c'est des civils ou bien si c'est des hommes armés. Nous n'avons aucune preuve. Et généralement, c'est les populations qui sont sur place qui peuvent nous donner la vraie version.
Et est-ce que vous pensez que ce n'est pas le seul cas?
Non, c'est possible que ça soit, que ça arrive couramment, hein, parce qu'en réalité, d'abord, je pense que les éléments de recherche sont déjà intégrés entre les populations. C'est les mêmes personnes qui font les mariages ensemble, qui font tout, donc ils peuvent à tout moment avoir des bases de ce genre. C'est fort possible.
La France nie ces accusations-là. Est-ce que vous pensez que ça pourrait jouer sur la perception des troupes françaises sur le terrain, ou notamment au niveau des populations?
D'abord, sa présence a été fragilisée par une portion de la population, d'abord, qui n'est pas d'accord avec sa présence. Et ensuite, avec des tels bases, ça pourrait alimenter encore le scepticisme de certaines populations, surtout celles du centre. Donc, je pense qu'elle doit beaucoup faire attention. Et sinon, si ça se généralise, finalement, les populations prennent sérieusement en général.
Et est-ce que le gouvernement malien a réagi?
Oui, le gouvernement malien est obligé aussi de soutenir la force française, parce que d'abord, il y a un accord. Les relations entre l'armée malienne et l'armée française seront en fait que le Mali ne va jamais dire que la France fait des bannis ou autre chose, et que ça arrive à toute armée, mais elle est obligée de soutenir l'armée française de tous les efforts qu'elle consentit auprès de l'armée malienne. Il y a une complicité.
Est-ce que ça ne va pas rendre le travail de sécurisation de ces zones-là un peu plus difficile?
Effectivement, quand il y a des bandits comme ça, généralement, les populations se désolidarisent de toute action. Et ce qui fait que ça va un peu chier sur ces opérations françaises, parce que d'abord, la complicité des populations, c'est difficile que les populations composent avec ces forces encore. Alors, et si c'est le cas, c'est très difficile d'avoir un résultat. Donc, c'est ce que ça peut avoir comme impact, généralement, dans les rapports entre populations et armées.
C'était Yaya Kindina, journaliste à la radio-télévision d'État à Tombouctou, dans le nord du Mali. Il était joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, à 10 jours de l'élection présidentielle, contestée par une partie de l'opposition, les mouvements citoyens et de la société civile ont remarqué un désintérêt chez certains électeurs, dont beaucoup traînent à retirer leurs cartes. Une situation qui inquiète les agents distributeurs dans la capitale. Notre correspondant André Komadjinga fait le point depuis N'Djamena.
Lancé le 26 mars, le processus de retrait des cartes d'électeurs est toujours timide dans la capitale N'Djamena, alors que les candidats en lice continuent leur campagne. Les agents distributeurs déplorent le manque d'intérêt que la population accorde à cette élection.
Moi, c'est Ngarmardé Rola, je suis agent distributeur de cartes électeurs Amtoukoui Karesette. On ne sait pas dans les jours à venir, il y aura d'engouement, mais depuis hier, il n'y a pas assez de gens qui sont venus chercher leurs cartes. Il y a des gens, même on trouve leurs cartes, on leur appelle de venir chercher, ils disent que non, ça ne les intéresse pas. Apparemment, la population n'est pas très très contente pour venir chercher les cartes. Mais par contre, il y a des gens qui viennent et qui retrouvent peut-être la carte des gens qu'ils connaissent. On leur donne ces cartes, mais on prend leur numéro et leur nom. Parce que les gens ne s'intéressent pas, ils ne viennent pas chercher leurs cartes. Et peut-être des gens qui les connaissent, là on juste pour ça, on ne sait pas s'ils auront leurs cartes ou pas.
Si dans certains quartiers, les électeurs ne se mobilisent pas pour aller retirer leurs cartes, d'autres le font aisément et avec beaucoup d'enthousiasme. Pour cet agent distributeur, le processus se déroule normalement. Normalement dans sa zone de responsabilité.
Moi, c'est Mouni Batouré, du quartier Chiagoua, ici, carré 19. Effectivement, les gens viennent régulièrement retirer les cartes. Les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport au mélange des cartes. Nous sommes obligés d'arranger quelquefois le nom, ce mélange, c'est ça le problème.
On met le prénom à la place du nom et le nom à la place du prénom. Il y a ni le nom ni le prénom. Juste le nom du père, la mère, parfois même juste peut-être le lieu de naissance. Donc il y a ces erreurs techniques, c'est depuis le niveau de la CENI.
Certains électeurs qui tiennent à exercer leur droit civique le moment opportun cherche désespérément leur carte. Ils dénoncent ce dysfonctionnement.
On est recensé ici en Tukouide et dans tous les lieux des cartes, on a fouillé des trois côtés, il n'y a même pas de cartes. Et en tout temps, on a vu nos récépissés, les cartes photos, mais finalement, les cartes d'électeurs ne sont pas sorties.
Oui, j'ai déjà eu à retirer mon carte hier et en cherchant les cartes, c'est un peu difficile de trouver aussi les cartes parmi les autres. Il y a certaines où on voit la photo de la personne, mais il n'y a pas de nom, le prénom. Alors, c'est un peu difficile. Le vote, là, c'est un acte citoyen, donc si on retire la carte, c'est pour aller voter.
Un chef de carré qui requiert l'anonymat affirme que lui et deux autres chefs de carré n'ont pas eu encore les cartes pour distribuer aux électeurs alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour aller à cette élection.
Actuellement, même, on n'a pas reçu la carte là, pour distribuer les gens. Ils viennent beaucoup, mais ils ne trouvent même pas. Et est-ce que c'est nous qu'on fait la carte? On ne sait pas. Ils sont en train de nous menacer partout. C'est lui qui va me donner d'abord, je veux distribuer. Et le CENI n'a pas amené tout. Ce n'est pas de ma faute. Avec un désordre comme ça, là, ce n'est pas normal. Moi, je suis le chef de carré. Et personne ne va venir pour m'insulter partout comme ça. Là, ce n'est pas sûr.
Contacté par VOA Afrique à travers son service de communication, le président de la CENI, Koudi Mahamad Bam, informe que les cartes sont imprimées à l'extérieur et qu'elles doivent arriver par vague à cause du tonnage. Et à l'heure actuelle, les restes de ces cartes sont déjà arrivés au pays. Il assure que tout le monde sera servi avant les élections. André Godmadjigar Ndjamena pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les leçons du rapport Duclert sur le rôle de la France au Rwanda pendant le génocide des Tutsis. Une commission composée de 14 historiens établit que la France porte des responsabilités accablantes dans ce drame qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Un rapport salué aussi à Paris qu'à Kigali, où l'on parle d'un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Ce rapport fera-t-il bouger les lignes dans les poursuites contre les suspects du génocide? Aidera-t-il à réparer les relations entre les deux pays? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ici aux États-Unis, le département d'État a publié hier mardi son rapport annuel sur les droits de l'homme. Ce document examine comment les nations traitent leurs citoyens du bureau de vote à leur lieu de travail. Un sujet d'Arash Arashbazadi, le récit est de Nanit Talani.
Trop de personnes ont continué de souffrir de mauvaises conditions des droits humains en 2020. C'est ce qui ressort du rapport annuel du département d'État américain sur les pays. Ce rapport examine la façon dont les gouvernements traitent leurs citoyens. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a présenté les conclusions avec une perspective sombre.
The trend lines on human rights continue to move.
Le rapport publié aujourd'hui montre que les lignes de tendance en matière de droits humains continuent d'évoluer dans la mauvaise direction. Nous voyons des preuves que cela se produit dans toutes les régions du monde.
Blinken a qualifié de génocide le traitement réservé par le gouvernement chinois à ces groupes religieux et ethniques minoritaires. Le rapport énumère aussi la violence et l'emprisonnement des critiques et des journalistes dans des pays comme la Russie et la Biélorussie. La directrice de Human Rights Watch à Washington, Sarah Holwinski, soutient que le rapport mettait en évidence un changement de politique étrangère.
Quand vous regardez en quelque sorte la définition des violations des droits de l'homme, l'Iran est en tête de liste et je pense que cette administration en particulier a intérêt à dénoncer ce que sont ces violations.
Blinken a aussi évoqué la violence au Myanmar à la suite du coup d'État militaire. Holwinski de Human Rights Watch affirme de son côté que ce rapport donne de la dignité aux victimes en mettant en cause les responsabilités des auteurs des violations.
The more that states are using these kinds of human rights reports,
plus les États utilisent ce type de rapport sur les droits de l'homme pour élaborer leur politique, cela signifie que les droits de l'homme sont à la table.
Holwinski dit que l'approche de l'élaboration des politiques pourrait influencer la décision d'un pays d'envoyer des armes de guerre dans un autre.
Cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph et Lionel Gaïma. À la rédaction en chef, Timothée Donangmaï et Bagassi Koura. Au micro, Claire Moragibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h/24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Al-Faïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA.